Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Je cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente.
Je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève.
Ah, oh, je le connais pas, celui-là.
C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique.
Wow!
Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellet, Valérie Blais, Gazeline. Le tout en collaboration avec Québécois.
Je vais en prendre deux bouteilles.
Oui, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com.
60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 135 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et je préfère vous aviser immédiatement que je suis présentement plein de café. Aujourd'hui, en studio, nous parlerons de Donjons et Dragons, comme vous l'avez pu le voir dans l'intitulé. Je ne ferai pas d'introduction plus mystérieuse que ça, mais je vais quand même appeler à la barre les invités de la journée. Donc, Roxane Janeway, bonjour.
Bonjour. En fait, mon vrai nom, c'est Roxane Chartrand, mais Janeway est utilisé couramment
pour les pour les meilleures raisons du monde,
absolument,
si je comprends bien.
Absolument.
Exactement. C'est un, j'ai même pas dit combien t'as roulé. T'as roulé 14, félicitations.
Ah, merci.
Hop là, j'ai un dégâts de 5 comme ça. Attends, on a quelqu'un d'autre. Alexandre Poirier avec un 8.
Oui. Tu veux-tu mon nom de personnage dans D&D?
Je t'en... Oui, je savais pas que je le voulais autant que
oui.
Je le veux présentement.
Mon dernier personnage de D&D, c'était un voleur tiefling, donc moitié des blonds, moitié de démon. Il s'appelait Tannin Tchaikovsky de Tiefling Thief. Il fallait qu'il dise au complet à chaque fois, parce que sinon ça... Il était pas stealth, ça marchait pas.
Fait que si je comprends bien, toi t'es le type de joueur ultra gossant dans une
game
de donjon.
Ah ouais, je suis le pire.
Ouais, ok, c'est bon. Ouais. Mon dernier personnage à moi, c'était un druide qui s'appelait Alan Moore. Puis je le jouais comme Alan Moore. C'était... Fucking
fait que tu te faisais publier, puis après ça, tu étais fâché?
Oui, j'étais...
C'est ça?
Non, c'était juste une affaire de comme... C'était toujours... Il y a une nouvelle cheminée dans Blackpool, puis on va se ramasser une gang pour conserver le capital culturel de notre ville. Ouais, c'était vraiment bizarre, mais j'ai eu du fun avec Alan Moore. Oh shit, 19! Ben, ça peut être personne d'autre que Sébastien Savard, bonjour!
Salut!
Bonjour, 19, c'est-tu correct pour toi?
19, j'aurais aimé mieux 20, mais je vais le prendre.
J'ai beaucoup de misère à faire un 20 avec ce que j'ai dans les mains présentement. Comme vous pouvez le voir.
Des dés.
Megan, je te présente-tu?
J'ai même pas de micro.
Ok, je te présente pas là-bas. Ah non, ça va être encore plus drôle. Un 2, Megan!
Allô?
J'ai même pas de micro. Non, c'est une blague. Et, attends. On s'entend que le dernier,
ça marche.
La dernière personne invitée à la table, combien que ça me prend pour qu'on puisse l'annoncer?
21.
Ouais, ok, c'est pas pire.
C'est quoi ton IC, man?
Ouais, c'est ça.
T'es quoi ton IC?
Mon IC, ça va être 15, mettons.
Ah, oh, ben là, ok. On va l'avoir le 15. On le pile, le 15. C'est 15 pour Christopher Chanty. Bonjour.
Salut, ça va bien.
Et bonne fête. C'était ta fête.
C'est bien gentil, oui, merci. La tienne aussi, en fait, c'était pas longtemps. Alors.
C'est un mensonge.
Ah, ben, c'était la fête à ma mère hier, que je peux saluer d'ailleurs.
Bonjour, Madame Savard.
C'est ouais, très en fait, étrange.
C'est plutôt Gaétane Racine, son nom.
Madame Racine.
En plus, il est divorcé.
Ah, bon. On crée des malaises, OK?
Pas vraiment, parce que c'est la fête de mon père aussi.
Okay.
Fait que 4 avril, toujours des relations un peu bizarres avec les béliers. Hein.
Je pense qu'il y a beaucoup d'anniversaires en avril. Je vais lancer ça comme ça.
Je pense que c'est un mois fertile aussi.
Mm-hmm. Je peux-tu aussi plugger la fête de ma mère la semaine prochaine?
Je t'en prie. Je t'en prie, absolument. Vas-y.
Mais bonne fête, maman.
Okay, coup de théâtre aujourd'hui, ce n'est pas une émission sur D&D, c'est une émission sur les anniversaires. Une heure qu'on souhaite les anniversaires de tout le monde. C'est malade, c'est carré.
J'espère que vous allez aimer ça autant que nous autres. Non, en fait, aujourd'hui, comme qu'on le disait, c'est une émission sur Donjons et Dragons, puis c'est une petite introduction que je trouvais qui était quand même assez intéressante. Historiquement, on sait que Donjons et Dragons existe depuis 1973, mais il y a quand même des événements qui sont venus avant que je trouvais qui étaient intéressants de souligner. En 1969, c'est le moment de la rencontre entre Gary Gygax et Jeff Parent. Ils se sont rencontrés à Gen Con. Et Gen Con, pour les gens qui le connaissent pas, c'est probablement une des conventions les plus savies de l'industrie. Il y a beaucoup qui se fait par rapport à San Diego Comic-Con, mais Gen Con, c'est vraiment un lieu privilégié qui existe depuis très, très
pour
longtemps.
Pour le tabletop gaming, d'ailleurs. C'est l'endroit pour...
C'est la mecque du tabletop
ouais,
gaming.
Vraiment, là.
Ah, c'est
qui fait son 50e anniversaire cette année, si je ne m'abuse.
Ben bon. Abuse-toi tant que tu veux.
Je m'abuse. Mais, ouais, non, c'est ça.
Et c'était au début En fait, c'était une convention pour des gens qui faisaient des simulations de militaires. En fait, Gen Con, c'est Geneva Tactical Convention, ou un truc de la sorte. Ou peut-être que je me trompe avec Tactical, parce que lors de la rencontre de ces deux individus-là, qui deviendront très, très, très importants, c'est ça, c'est là où je me suis trompé, c'est que c'est pas tout à fait la même personne qui a fondé D&D que la même personne qui a cofondé Chainmail en 1971. Donc, Gary Gygax et Jeff Parent ont fondé Chainmail. En 1973, il y aura la création, suite au départ de Jeff Parent, de TSR, qui est Tactical Studies Rules. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là qu'arrivera Donjons et Dragons. Étrangement aussi, vers les alentours de la fin des années 60, on a vu l'émergence aussi d'un truc qui s'appelait le SCA, donc le Society for Creative Anachronism. C'était la plus importante et la première société de reenactment des combats de la guerre civile. Et ça a permis une grande ressurgence du théâtre improvisé. Fait que c'est souvent le cas que quand on parle de Donjons et Dragons, on parle de l'émergence de ces deux formes de pratiques-là, soit la convention et le improv de reenactment. Puis ça a fait en sorte que ça bouillonnait en quelque sorte pour créer Donjons et Dragons, qui est la fusion de ces deux types de pratiques-là. Wow, I command attention. Huh?
Donc on pourrait même dire que peut-être la grandeur nature, on s'embarquera peut-être pas trop dans ce territoire-là, mais la grandeur nature est probablement arrivé en même temps que Donjons et Dragons.
Ben, le grandeur nature de fantasy est venu plus tard, mais le grandeur nature, on met de la petite cuirette et on fait semblant qu'on...
Peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé à y penser à peu près en même temps, mais la guerre, ça pognait plus dans les années 70. Fait qu'ils ont attendu un peu...
Ben, c'est que c'est encore aussi... il faut que tu rajoutes que vers la fin des années 60, début des années 70, il y a la ressurgence de Tolkien sous l'égide de toute la communauté des Burn Boys puis des hippies. En fait, toute le Haight-Ashbury et tout ça a tout redécouvert Tolkien en même temps. Donc, à la fois l'improvisation, à la fois ces idées-là de roulement de dés, tactique, militaire, et ainsi de suite, et cette improvisation-là, ça fait vraiment que Donjons et Dragons, c'est pas essentiellement quelque chose qui sort de nulle part. C'est vraiment quelque chose qui est un mélange assez cohérent de toutes les préoccupations de cette époque-là. C'est aussi, conséquemment, un moment très important pour la fabrication de l'imaginaire. Puis je pense qu'on en parle énormément de cette idée-là, d'un rapport qui existe entre un imaginaire conscient, si on peut dire, ou un imaginaire fabriqué. Et cet imaginaire fabriqué, je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant parce que on a cassé beaucoup de sucre sur le dos de Donjons et Dragons vis-à-vis le fait qu'on disait que la jeunesse serait tellement en immersion dans un monde fantastique qu'il ne pourrait plus faire la distinction entre réel et fiction. Puis c'est ça qui a fait comme toutes les crises de suicide, c'est ça qui a amené tout le mouvement de Satanic Panic auquel je vais revenir plus tard. Mais il y a quelque chose de fondamental dans Donjons et Dragons, c'est cette idée-là d'une construction d'une réalité et d'un imaginaire. Cette construction-là fonctionne de manière à
augmenté. Puis là, je suis en train de faire une introduction comme si les gens ne savent pas véritablement de quoi je parle, mais je pense que tout le monde à la maison,
je pense que oui,
sont au courant que j'ai pas besoin de dire qu'il faut que tu roules des dés pour avoir des... allez lire Wikipédia avant que vous avez besoin d'une introduction. Je suis vraiment pas la meilleure personne pour faire une introduction de Donjons et Dragons, puis en même temps faire une introduction sur Donjons et Dragons, ça prendrait une heure au complet, puis vous autres voulez tout parler. ce que je voulais essentiellement aussi mettre sur la table, c'est cette idée-là d'un développement de la créativité puis un développement de l'empathie. Je trouve que c'est un aspect qui est rarement souligné, mais qui prend de plus en plus d'importance à ce qui a trait des recherches académiques autour de Donjons et Dragons. Pour les gens qui voudraient aller explorer ça, je me suis dit que je le mettrais en conclusion, mais je vais le mettre tout de suite parce qu'on arrivera peut-être, on va peut-être arriver un peu short à la conclusion. Il y a actuellement un des plus importants colloques sur les jeux, les RPG, si on peut dire, qui s'appelle le Living Games Conference, que vous pouvez aller voir au livinggameconference.com. Juste aller regarder les programmations, ça a l'air extrêmement stimulant, ça a l'air super, super érudit, puis moi, ça m'a rendu la recherche pour l'émission vraiment, vraiment plus agréable. Donc, pour récapituler, c'est très rapide, l'improvisation, la création de Chainmail, et aussi, comme tu disais, Tolkien, ça fait essentiellement le tour de la génétique initiale de Donjons et Dragons.
Les ingrédients sont là.
Exactement. Mais avec ces ingrédients-là, il faut qu'on soit capable de faire plus. Et une des personnes qui fait plus avec beaucoup d'ingrédients, c'est Chris. Bonjour. Ah, t'as-tu vu ce segway-là?
Tellement beau.
J'ai-tu réussi ça? Ouais, de dextérité, ouais, je l'ai eu.
En plus, c'est pertinent ce que tu viens de dire parce que.
Oh, merci.
Ce que je voulais parler aujourd'hui, c'était surtout justement du rôle du maître de donjon, en fait, qui est comme un peu le game master dans Donjons Dragons. C'est lui qui va mettre les balises pour le monde dans lequel les joueurs y jouent. Puis à chaque fois qu'il y a une action qui se prend, c'est lui le mur contre lequel va rebondir cette balle-là. C'est lui qui va donner justement une réaction à cette action-là et qui va relancer les joueurs dans justement avec leur jeu de rôle au fur et à mesure que l'ajout se fait. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour jouer à D&D. Bon, c'est une activité sociale, une narration émergente, tu peux faire pas mal tout ce que tu veux, une super grande liberté d'action, puis tu roules des dés dans un monde fantastique, c'est exceptionnel. Sauf que pour moi, ce qui m'a vraiment vendu à cette idée-là de D&D, c'était être un DM.
Ouais?
Ouais.
Tu dois être un très bon DM, en fait.
Ben, j'ai commencé à DMer quand j'avais à peu près 14 ans.
Hi!
Puis je viens d'avoir 28, fait que ça fait la moitié de ma vie que je suis DM maintenant.
Wow!
Ça en dit peut-être beaucoup sur ta personnalité. C'est sûr que ça en dit beaucoup sur une personnalité. T'es peut-être un dominant plutôt que soumis.
Ah! Intéressant!
J'aime où l'émission s'en va. J'aime beaucoup ça.
Non, mais c'est
on a parlé de nos mères, maintenant on parle d'hommes, ce moi.
D'où vient cette vocation?
Mais tu sais, ça, je suis devenu designer de jeu aussi avec le temps. C'est peut-être à cause de ça. Who knows? Mais essentiellement, ce que je voulais dire, c'était ce qui différencie Dungeons & Dragons de justement tous ces autres jeux tabletop-là, c'était justement que c'était à travers les descriptions du DM qu'on voit puis on entend le monde dans lequel on joue, puis c'est lui aussi qui va nous dire la réaction à chacune de nos actions. C'était comme le gros différenciateur, c'est vraiment le DM versus d'autres jeux. Puis c'est cet idéal-là du DM que depuis Donjons & Dragons, j'ai l'impression qu'on essaie constamment de recréer dans toute autre forme de jeu, que ce soit tabletop ou en jeu vidéo. Particulièrement en jeu vidéo, on va essayer de donner un horizon d'action aux joueurs de plus en plus grand avec, tous les jeux maintenant sont open world. Là, on essaie justement de donner l'illusion que tout est possible dans les mondes qui sont créés digital. Mais il n'y aura jamais la flexibilité narrative contrôlée du DM, soit sa capacité à improviser face aux actions des joueurs, qui permet une immersion fictionnelle qui est nécessaire pour que le joueur y incarne bien son rôle dans Donjons & Dragons. Bon, rapidement, je vais plugger Janet Murray avec Hamlet on the Holodeck,
ouais.
qui, bon, elle, justement, proposait que comme l'idéal, justement, de la narration dans les jeux, c'était dans Star Trek avec le Holodeck, parce que tout était permis soudainement, tu sais, tout réagissait par rapport aux actions que les gens du Starship Enterprise prenaient dans le Holodeck. Mais voilà, fait que les jeux, maintenant, ils essaient toujours de vendre un peu comme le DM et ses capacités à travers des médias digitaux. C'est aussi devenu un emblème du geekdom, un peu le DM. C'est comme un symbole de la culture geek, particulièrement pour les jeux. Puis on peut le voir, justement, on va en parler tantôt, Roxane va en parler, mais c'est, l'émergence d'émissions sur Twitch puis sur YouTube de gens qui jouent à Donjons Dragons live, notamment Critical Role, il y a aussi Roleplay, puis ici au Québec, il y a les Appendices.
Les Appendices, en fait, qui font une émission sur Donjons Dragons. Au Randolph de Rosemont, une fois ou trois mois peut-être. Je pense qu'il y en a une bientôt.
Ça devient, ouais, il essaie de faire ça plus régulier. Ouais. C'est la gang des Tu Games.
Ouais, avec des invités des fois, là, des humoristes, des comédiens, peu importe. Là.
Fait que c'est ça, c'est de vendre justement... ben, en fait, c'est devenu un emblème du geekdom, du fandom, en fait, de tout ce qui est comme culture geek, j'ai l'impression, parce que c'était comme un des premiers événements, en fait, l'émergence de Donjons Dragons dans les années 70, qui a fait que les gens... Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, rien, là. C'était des gens qui étaient passionnés assez d'un jeu, qui avait un magazine, qui changeait les règles, puis qui tweakait, puis qu'il fallait qu'il y ait le magazine le mois d'après, puis qu'ils se rappellent la règle d'avant, puis c'était vraiment pas la même game qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout au bout de nos doigts, là. C'était des vrais fans, tu sais.
Mais la dynamique fonctionne aussi de la même manière, si tu me permets. Tu sais, l'idée... Je trouve ça super intéressant. J'avais jamais vraiment conçu ou imaginer en quoi est-ce que la figure du DM est vraiment importante dans le vent du geekdom, mais toute cette idée-là d'un demiurge sur ton propre univers, tu sais, tous ces termes-là qu'on entend de plus en plus avec le headcanon, tout ce qui est canon, tout ce qui est pas canon, ou tous les trucs que t'intègres, ou les fan théories, tout, c'est quand même des manipulations qu'on fait avec nos objets de fandom, mais qu'un DM fait avec un univers diégétique précis.
Exact.
À ce point-ci, non, ton club plus 8 devient de la gélatine. Ouais, non, mais tu peux pas faire ça. Ben oui, je peux faire ça. Puis la position dans laquelle le DM est, quand il est en train de rouler une game, c'est aussi un peu la position d'un geek face à son objet. Il est capable de manipuler, que ce soit physiquement aussi, là, tu sais, des gens qui font du montage vidéo, du montage audio, tu sais, des réécritures de la fanfiction, c'est aussi ça. C'est une réédition des règles à l'intérieur d'une diégèse précise. Fait que j'irais jusqu'à dire que c'est à travers le DM qu'on prend confiance d'avoir cette position-là dans le monde.
Oui, je dirais même, tu sais, le DM, c'est plus que le réalisateur, c'est plus que l'écrivain,
c'est
plus que le designer.
C'est le monteur.
Tout présent, c'est l'omniprésent, c'est le dieu, tu sais, en fait, dans le jeu, effectivement.
Fait que s'il est pas bon...
Ouais, ben c'est ça.
S'il est pas bon, c'est clair que ça va se refléter sur...
Exactement.
Sur
est-ce qu'il y a vraiment des mauvais DM?
Oh oui.
Je suis convaincu. Pas longtemps.
Oh, oui.
C'est ça.
Pour avoir vécu des expériences horribles.
Oh, oui,
j'ai jamais eu une mauvaise expérience en soi, fait que je peux pas dire. Là. Je sais mais qu'il y a des mauvais joueurs et j'en fais partie, donc je suis vraiment désolé. Là.
Moi, j'ai appris ça tantôt. Je ouais. suis pas séduit là-dessus.
Non, sorry.
Mais c'est que la clé d'un bon DM, en fait, c'est de comprendre que le but, c'est que tes joueurs aient du fun, outre les règles. Parce que les règles, genre, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être à cheval dessus, puis tu sais, facilement, il y a manière que les joueurs y en sachent plus que toi des règles.
Oui, oui, oui.
Mais un bon DM va manipuler un peu, genre, contourner les règles quand que il sent qu'il y a un moment poignant qui pourrait arriver si ce moment stressant-là arrive. Fait, par exemple, si je veux pas qu'il ouvre la porte, même si normalement la porte en bois, ça prend, mettons, un jet de 12 de force pour la briser, ça se peut que arbitrairement dans ma tête, je l'ai mis à 18 parce que je sais que genre il y a un orc qui s'en vient puis ils l'ont entendu puis que ça met un moment de stress. Mm-hmm. C'est fun, ça.
Non, ouais.
Fait que c'est ça aussi, tu sais, cette réactivité-là est impossible à avoir avec un jeu qui est prescripté ou un jeu vidéo. Parce que tout est déjà programmé. T'sais.
D'où
le
la
DM,
notion.
Lui, il vient donner justement cette notion d'improvisation-là qui permet justement un vrai jeu de rôle.
Ouais.
Le RPG, comme on le connaît maintenant dans les jeux vidéo, c'est essentiellement un système de règles qui est comme découlé de Donjons Dragons, mais là, tu joues semi un rôle, entre guillemets, là, dans le sens que tu incarnes un personnage, mais tu viens pas à avoir à agir, à improviser ce personnage-là dans des situations narratives, ou du moins jamais d'une manière où est-ce que tout est permis.
Ouais, mais je trouve que tu poses une bonne question, là, parce que prendre un exemple on the side, là, mais prendre Mass Effect, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui vont jouer, il y a plusieurs types de joueurs de Mass Effect, là, mais tu sais, si t'es catégorisé, tu peux dire comme il y a une personne qui va jouer Shep, Shepard, soit, mais je dis Shep parce que soit Man Shep ou Femme Shep, peu importe, qui va le jouer cohérent avec l'alignement, où il y a des gens qui vont jouer comme, ben là, aujourd'hui je suis baveux, demain je vais être gentil, puis tout, puis là ton chef il est comme juste totalement bizarre dans ses stats.
T'as 100% raison, puis c'est là qu'en fait que je dis, mais t'as toujours comme 4-5 options, puis t'en choisis une dans ces 4-5 là pour suivre cette path là. Mais t'as raison en fait que justement c'est ce qu'on essaie de recréer, c'est cet idéal du DM là.
Absolument.
On essaie justement de faire comme si le jeu réagissait à tout ce que tu pouvais faire, mais tout ce que tu peux faire essentiellement c'est répondre 5 choses. T'sais.
C'est ça, la valeur improvisationnelle.
Sauf que le joueur il voit pas ça, puis c'est correct. En fait l'illusion est belle, puis ça fonctionne super bien.
Mais ben à ton avis, le développement des trees, c'est pour arriver à un point où ce que tu finis avec 64 choix, puis tant qu'à avoir 64 choix, c'est comme si tu en avais assez pour laisser libre cours à une improvisation.
C'est sûr que dans ces 64-là, il y a assez pour plaire à presque tout le monde, mais dans ces 64 choix-là, ça veut pas dire que c'était le meilleur choix pour la situation le plus le fun au moment où ça a été fait. T'sais. Puis ça, c'est juste un DM qui est là en train de lire la situation qui pourrait vraiment le dire.
Ouais.
Mais n'empêche qu'ils ont quand même fait quelque chose d'intéressant avec le DM. Ils l'ont utilisé comme image de marque dans bien les jeux vidéo. Fait que, comme contourner pour justement renforcer l'illusion à travers le jeu vidéo, il y a des jeux comme Knights of Pen and Paper. C'est un super bon jeu, en fait, PC, où tu joues entre guillemets à Donjons et Dragons. C'est un RPG, puis tes quatre personnages qui sont tes quatre combattants, ils sont sur une table, genre devant une table, puis derrière la table il y a un DM qui sont en train de leur raconter l'histoire, puis les monstres sont toujours derrière le DM quand tu te bats contre. Fait que tu sais, on utilise l'image du DM dans les jeux vidéo justement pour renforcer cette illusion-là que tout est permis. Il y a aussi Guild of Dungeoneering, qui est un jeu un peu plus où est-ce qu'on utilise le DM comme mécanique, en fait. Puis tu construis des donjons, puis tu mets des traps, puis tu mets des monstres, puis là, il y a des gens qu'il faut qu'ils passent à travers. C'est quand même intéressant.
Un peu comme tous les Dungeon Keepers qui sont sortis avant, ou les trucs comme ça,
Ouais.
Il y a souvent beaucoup d'humour dans ces jeux-là aussi. On va jouer sur les stéréotypes, puis sur les caricatures.
Ouais, c'est vrai.
Yeah, exact.
Ouais.
Fait que bon, tout ce que je voulais essentiellement contenir de tout ça, c'est qu'on essaie toujours de répliquer la réalité dans nos mondes virtuels, mais on est quand même toujours limité par la technologie. Puis l'action de DMA, c'est un jeu en soi aussi. Les jeux de rôle sont plus efficaces puis vendeurs si le joueur peut s'immerger de manière fictionnelle dedans. Puis, encore une fois, la technologie vient limiter un peu cette immersion fictionnelle-là. Puis, c'est pas encore, je dis encore en parenthèse ici, là, possible de répliquer l'improvisation d'un DM pour répondre aux actions d'un joueur dans un jeu de rôle virtuel. Le holodeck n'existe pas.
C'est ça.
Il n'existera pas bientôt, là, ça je peux le confirmer aussi. Là.
Sauf là, il y a la chambre de Troy et Abed aussi qui est quand même un bon palliatif. Mm-hmm. Oui.
Je te trouve un peu pessimiste. Là. Moi, je crois au holodeck fermement.
Mais en guise de conclusion aussi par rapport à ça, il y a le... qui est un aspect assez important par rapport à Donjons & Dragons, c'est qu'il y a le contexte. T'sais, l'ordinateur ne pourra jamais, ou t'sais, au-delà, il va pouvoir nous fournir un holodeck, effectivement, mais le contexte, t'sais, je me rappelle, c'est encore une tranche de vie, là, mais t'sais, je me rappelle d'une game, ou du moins d'une quête de Donjons & Dragons, où il y avait une chicane entre le DM et un des joueurs. Évidemment, la chicane a découlé dans la game, t'sais, c'est comme, peu importe l'ordinateur, il n'y aura jamais une dent contre un des joueurs qui va faire en sorte que c'est comme, ah oui, t'as ouvert la porte, il y a un trap, il y a un piège, t'as 4 des 20 damage, puis là, il vient de tuer le personnage, puis là, t'es freak out, t'es comme dans la cuisine en train de faire, oh shit, c'est la fin de tout. C'est ça, ben, peut-être dans un contexte.
C'est la dimension expérientielle, genre,
ben oui, c'est ça.
Le tactile, genre, d'être capable de rouler des dés, puis d'être devant quelqu'un qui est obligé de réagir à ton action, ça, c'est une absorption qui se fait là, genre, on est super dans l'histoire. Je me rappelle des gens qui ont crié, qui ont tapé sur la table, comme dans une game de Donjon Dragon, puis moi je fais jamais ça en jouant à un jeu vidéo en jouant à un autre
sauf quand tu joues contre Alexandre parce que
apparemment que c'est un joueur difficile.
Mais je DM ces temps-ci puis je tape des points fait que c'est pas mieux là. je pourris là, je mets des boss puis les personnages ils tuent tout là. Je comprends pas
t'es pas correct
non. Non mais en fait je suis pas assez bon comme DM.
Ok, c'est pour ça que tu as répondu autant du tac au tac parce que oui, ben je pense que les gens aussi comprennent leur rôle.
Moi, toujours le maître de jeu qui sait pas qui est pas bon.
C'est
les
ça.
Les maîtres de jeu qui savent qui peuvent être meilleurs.
Ouais.
C'est deux différents.
J'ai beaucoup d'imagination, mais je suis trop gentil, moi. Fait que les personnes avec qui je joue finissent par comprendre que je suis toujours un peu en train de leur comme casser un orteil à la place de leur trancher la tête. Puis là, ils font comme, ah, ben, tu sais, je vais faire des niaiseries parce que, tu sais, Jim, il est gentil. Ça, je sais que je peux pas DM'er à cause de ça parce que je suis toujours comme,
Mais moi, je suis encore en transition. Ça fait une dizaine de quêtes, de quêtes uniques, là, pas plein de quêtes d'une dizaine d'aventures. Chaque vraiment une dizaine de quêtes que je fais. Puis, j'alterne encore entre le trop gentil, OK, ben, ils ont tué un dragon one shot, mais j'exagère, c'est jamais arrivé, là. Puis, ah, ben là, je vais me forcer un peu, là. Il me semble que c'est trop facile. Puis finalement, il y a comme deux personnes qui sont inconscientes. Puis je suis comme, OK, je voulais pas faire ça. Fait que juste, c'est un équilibre à atteindre éventuellement.
C'est apprendre à danser.
Ouais. C'est ça. Tu sais, j'imagine que toi, Seb, t'as plus d'expérience que moi en tant que DM, en tant que, ouais,
j'ai beaucoup de mauvaises expériences qui sont accumulées. Puis c'est très intéressant d'ailleurs d'avoir, parce que moi j'ai commencé jeune, j'avais une chimie de groupe dans mon coin du Lac-Saint-Jean.
Okay.
Quand j'ai déménagé, j'étais au cégep de Jonquière, puis là, oups, on jouait pas du tout de la même façon. Fait que j'ai eu un choc culturel véritable là-bas, parce que nous autres on jouait à la bonne franquette, on avait pratiquement pas de règlement, là. On faisait du RP juste d'un combat, puis on se tiraillait.
Pas de combat grid-based, ben non, correct.
Fait que quand j'ai appris finalement les vraies règles, ben là j'ai fait comme OK, c'est pas aussi hot que dans notre salon. Fait que, selon moi, c'était une mauvaise game. Ça n'était peut-être pas une, mais encore une fois, c'est toujours... les joueurs ont différents objectifs, ils ont différentes façons de jouer. Si tu prends n'importe qui, tu les mélanges tout en même temps, puis tu... let's go, on commence. C'est là que la recette pour avoir une mauvaise expérience est là.
Ouais.
Fait qu'il faut savoir s'il y a beaucoup, mettons, des parties dans des conventions... où ce que n'importe qui va arriver là, ben, le maître de jeu, je pense qu'il faut qu'il offre une expérience de convention. Il faut qu'il prenne un petit peu la façon que le monde joue de façon générale, ouais, qu'il offre ça.
Ou du moins qu'il commence en offrant ça, puis qu'il tranquillement il ajoute au répertoire aux joueurs, ouais, aussi.
Oui,
qu'il
s'ajuste justement au...
qui apprennent que, ah, OK, ben, je peux jouer, en fait, roleplay au lieu de juste jouer power, ouais, gamer. Ou,
c'est genre, exactement ça que j'allais dire tantôt. C'est qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais DM, mais s'il n'y a pas de synergie entre la manière dont le groupe veut jouer et la manière dont le DM est habitué, ouais, de mener ses parties, c'est sûr que ça devient difficile et ça devient plate pour un et pour l'autre éventuellement.
100%.
Fait que, tu sais, si jamais, tu sais, un groupe veut faire du gros roleplay puis le DM est plus ou moins à l'aise avec ça, clairement, ça, tu sais, ça va être un petit peu nul pour l'un et l'autre, mm-hmm, dans le fond. Fait que ça prend une synergie de groupe.
Oui, malléable.
Voilà. Synergie, attends. Oui, effectivement, c'est à toi, Captain Janeway, qui est venu nous parler de probablement l'expérience la plus synergique qui existe actuellement en ligne, de ce que j'ai cru comprendre, parce que je connais pas Critical Role.
Absolument, absolument. En fait, moi, c'est drôle parce que mon entrée dans le monde de Donjons et Dragons s'est faite pas mal avec Critical Role, en fait. J'avais toujours voulu jouer quand j'étais plus jeune, mais il me manquait une grosse partie pour jouer à Donjons et Dragons, c'est-à-dire des amis. Ça a l'air un peu triste dit comme ça. Ça a l'air un petit peu triste dit comme ça, mais ben, c'est un peu difficile de trouver un groupe de gens avec qui tu te sens à l'aise, justement, de jouer. Et bon, faire du roleplay, c'est difficile, ça rend vulnérable. Et donc, ben, il faut trouver le groupe de gens avec qui le faire. Et donc, Critical Role, pour moi, a été vraiment la porte d'entrée. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que Critical Role est, en fait, c'est un stream, donc un groupe d'acteurs, de voice actors, dans le fond, qui joue à Donjons et Dragons une fois par semaine depuis 2 ans, en ligne sur Twitch. Twitch. sur le site de Geek & Sundry, qui est la compagnie de Felicia Day et Will Wheaton. Et donc, ce groupe de voice actors-là se connaissent depuis avant la partie. Ils jouent ensemble depuis maintenant. En fait, ça fait 4 ans. Et bon, c'est ça. Ils se rencontrent à tous les jeudis soirs, jouent à Donjons & Dragons live sur Twitch devant maintenant... On est à peu près, je te dirais, 30 000 à regarder ça, wow, chaque semaine en live, plus les diffusions par la suite. C'est rendu gros, du gros.
300 000 encore... sur YouTube par vidéo à peu près.
Absolument.
300 000 personnes.
Ouais. Je me souviens, moi je regarde Critical Role depuis le tout début, je me souviens, on était super excités quand on était 1000 connectés en même temps à regarder Critical Role, c'était super excitant. Puis il est arrivé le jour où, parce qu'à un moment donné, il faisait des giveaways, il donnait des prix à chaque fois qu'il y avait 50 personnes de plus. Et il y a eu un moment où, ben, rendu à 30 000 personnes, si tu le fais à toutes les 50 personnes, ben, c'est pas super lucratif de faire des giveaways à toutes les 50 personnes. Donc, Critical Role est devenu vraiment un gros phénomène. Au début, il était 7 personnes, donc c'est en fait 8 personnes. C'est une grosse, grosse game. C'est beaucoup. Gérer 8 joueurs en même temps. Il y a des gens qui sont partis. 5,
fait que, tu
sais. 5, ouais, exactement. Donc, à 8, c'était un petit peu intense. Il y a des gens qui partent. Il y a Ashley Johnson qui a fait la voix de Ellie dans The Last of Us, qui, elle a eu un contrat pour jouer dans Blindspot. Donc, elle tourne à New York. Donc, elle est là un peu à temps partiel. Donc, en gros, il y a 6 voice actors relativement connus qui ont été dans des jeux Resident Evil, Overwatch, World of Warcraft, qui sont là et qui jouent à chaque semaine. Et donc, comme je dis, il y a à peu près 30 000 personnes qui regardent ça à chaque semaine et il y a vraiment une espèce de synergie. Synergie. C'est comme mon mot aujourd'hui, synergie.
C'est
hein?
Le buzzword.
Oui, c'est mon buzzword de la journée. Il y a une espèce de communauté qui s'est créée autour de Critical Role et c'est devenu vraiment plus qu'une simple game de Donjons et Dragons. Ces voice actors-là vont dans des conventions pour faire des games de Donjons et Dragons live dans des théâtres où il y a genre 3 000 personnes qui y assistent. On s'entend que c'est 7 personnes assises autour d'une table avec des dés puis des crayons. Là, tu sais, il y a pas de mise en scène à proprement parler. C'est vraiment juste des gens qui sont là pour écouter l'histoire et participer à leur manière aussi, parce qu'il y a énormément de fan art qui va découler à chaque semaine des parties. C'est drôle, il y a une personnage qui récemment s'est brûlé les cheveux. Donc là, tout le monde est en train de refaire des fan art pour, parce qu'avant elle avait les cheveux super longs. Maintenant, tout le monde refait des cheveux avec elle avec les cheveux courts. Puis ils introduisent un peu ce fan art là dans le roleplay, parce que en fait au départ l'actrice qui joue Keyleth, qui est celle qui s'était brûlé les cheveux, voulait pas que son personnage ait les cheveux coupés, mais finalement à cause du fan art a décidé de l'intégrer dans l'arc narratif. Donc il y a cette espèce de communauté là qui s'est créée autour de Critical Role, qui est aussi fascinante que le jeu lui-même et qui a sans aucun doute participé à une recrudescence de la popularité de Donjons et Dragons, parce qu'ils jouent en Donjons et Dragons 5e édition en passant.
Mm-hmm. Ouais.
Et la recrudescence de Donjons et Dragons donc passe énormément par Critical Role, étant donné que c'est tellement une grosse avenue. Il y a beaucoup de gens qui le regardent et il y a beaucoup de gens qui le découvrent, comme moi, je l'ai similé découvert avec Critical Role. Et c'est un peu ça, dans le fond, tu sais, en ce moment, à cause de Critical Role, j'ai commencé à jouer à Donjons & Dragons, je suis en train de faire ma première game. Il y a tout ça qui s'enchaîne et je suis pas la seule, les gens ont commencé à s'intéresser à Donjons et Dragons et à la forme aussi. On en parlait un petit peu tantôt de créativité qui implique la création d'une partie de Donjons et Dragons et le processus de co-création aussi entre le DM et les joueurs. Donc on voit qu'il y a vraiment une espèce d'enthousiasme autour de cette idée-là de co-création qui est venue avec Critical Role aussi et d'autres jeux comme Acquisition Incorporated qui sont en ligne aussi, qui sont super populaires, que Alex aime beaucoup.
Oui.
C'est plus drôle.
Oui, c'est plus drôle.
C'est plus drôle parce que moi on en parlait avant l'émission, mais c'est pas mon problème, je m'en fous, là, je veux dire, comme tout le monde peut aimer ce qu'il aime, mais moi j'aime pas personnellement. En fait, j'aime pas Geek & Sundry en général, donc je m'excuse à l'avance. Mais j'aime pas Critical Role parce que je trouve ça un peu trop power gaming à mon goût personnellement.
C'est le message qu'il va envoyer aussi.
Pardon?
C'est le message qu'il envoie.
Oui, c'est ça.
Tu t'es vu, tu vas montrer une façon de jouer, ouais. Et les gens vont dire comme, OK, c'est comme ça et pas autrement.
Ouais.
Ah, c'est peut-être un peu dangereux. Mais en fait,
le power gaming, c'est vraiment...
On a plus que de penser que c'est ça qui peut se passer.
OK.
Mais le power gaming, c'est adhérer aux règles coûte que coûte. Il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre.
C'est faux. Dans Critical Role, là, tout est du homebrew. Matthew Mercer invente ses propres règles. Tu peux pas... Non.
Roxane a écouté Boyer. Toi, pas vraiment.
Moi, j'ai écouté les 90 épisodes presque deux fois chaque.
Je sais.
C'est genre 500 heures d'écoute.
Je sais, tu dis à chaque fois qu'on change de D&D.
Il faut que je te le rappelle. Il faut que je te le rappelle.
Mais j'aime mieux l'humour puis
drôle, Critical Role.
Oui, mais Acquisitions Incorporated, c'est hilarant.
mais en même temps, c'est ça, toute cette idée-là, Power Gaming, parce que ça connecte à quelque chose que Chris disait, que je suis pas 100% certain. Il me semble que dans l'introduction du Dungeon Master Guide, comme premier ou deuxième paragraphe, il est écrit que le Dungeon Master doit ou peut ou doit délaisser les règles quand ils enfreignent au plaisir de la partie.
Absolument.
C'est ça, c'est bien. Ah oui. C'est bien.
C'est écrit genre dans le deuxième paragraphe.
C'est écrit genre this rulebook is more of a guideline.
C'est ça, exactement.
C'est
ce qui compte, c'est l'expérience de jeu et non pas les règles en tant que telles. Tu sais, il présente vraiment les règles comme étant un ensemble, une espèce de cadre dans lequel on peut inscrire une partie, mais encourage fortement les DM à les délaisser.
On a le droit de tricher.
Oui.
C'est ça qui est très intéressant.
C'est aussi vrai dans Critical Role. On voit jamais les jets de dés, en fait, de tout le monde.
Ah.
Parce que des fois, je suis sûr que Matthew Mercer, il est capable de justement jauger là, c'est quoi la situation actuelle, qu'est-ce qui va faire le plus d'impact, non seulement genre chez mes joueurs, mais chez les téléspectateurs maintenant.
Mais il y a aussi, ce qui fait aussi, quand c'est des décisions super importantes, genre quand un personnage meurt et qu'ils font Matthew Mercer a intégré les règles.
Une photo.
Exactement. Il a intégré, il a inventé des règles de comment on appelle ça, résurrection. Mm-hmm. Okay. Quand un personnage meurt, donc ils peuvent, ces party members peuvent faire une espèce de rituel pour le ramener à la vie en donnant des espèces d'offrandes à, je sais pas, aux dieux, j'imagine. Et quand il fait le rôle final, il prend une photo et la poste sur Twitter en live, juste pour être certain que tout le monde oui. va pas lui dire « Ah ouais, t'as juste gardé le personnage en vie parce que c'est ta blonde.
» okay.
Parce qu'ils ils se sont fait accuser. Donc, Matthew Mercer est en couple avec une des personnages dans le jeu. Donc, il se faisait souvent accuser d'être un petit peu plus soft avec elle pour garder son personnage en vie. Fait qu'il a commencé justement à prendre des photos quand ça a décidé.
Ils se sont fait accuser à un moment donné de favoritisme envers certains personnages. Carrément, à ce point-là.
Ouais, ouais. Ben, les gens sont très intenses. Hein. T'as un fandom. Là, ouais.
On est sur l'Internet.
C'est des problématiques.
On est sur l'Internet. Ouais. Il y a même des gens qui. En fait, il y a des gens qui pensent que Critical Role est arrangé. Et, comme tu dis, les jets des servent à rien. Donc, c'est vraiment juste comme un.
Que c'est prescripté, là.
Exactement. Ça, c'est démenti à 100%. Je pense pas que c'est.
Je pense que ce serait plus difficile de faire ça.
Honnêtement, ce serait vraiment plus difficile d'être prescripté et de garder quand même l'espèce de feel de jeu de rôle, d'improvisation.
C'est des acteurs de voix, pas des acteurs de profession, tu sais, comme devant genre une caméra, là. C'est pas tout le monde qui... Ouais, c'est ça. Oh my God, c'est ça qui est arrivé, je m'en entendais pas.
Ouais, mais les gens se réapproprient énormément ce genre de trucs-là. Je me souviens, il y a eu une bataille, justement, je parle toujours de Keyleth, mais son personnage est un peu perdu dans la vie. Il y a des gens qui sont allés sur Twitter et qui ont accusé l'actrice de faire du queerbaiting parce que elle flirtait un peu avec d'autres personnages féminins parce que tu sais elle cherche un peu et les gens ont comme pris ça super à cœur ce personnage là essaye d'explorer un petit peu sa sexualité. Puis sont allés l'accuser de faire du queerbaiting, puis ça a parti comme une espèce de conversation, puis les gens prennent ça au sérieux.
Faut dire
là.
Que c'est une conversation qui est chaude, genre, dans tous les médias possibles, absolument. Dans tous les fandoms.
Absolument, absolument, absolument.
Espérons qu'on avance.
Ouais, c'est ça. ce que j'ajouterais, en fait, sur ce que t'as dit tantôt, en fait, ça fait 4 ans que ces gens-là jouent ensemble, mm-hmm. puis c'est incroyable à quel point ça rajoute à la qualité de la production, parce que ils ont leur safe space qui existe dans leur jeu de jeu à 8, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est important que tout le monde sache comment parler à l'autre, puis se sente à l'aise de justement prendre la voix de leur personnage, puis d'interagir avec le DM, puis avec les autres personnages de cette façon-là. Ça rajoute beaucoup, beaucoup à la qualité de production, parce que je regarde beaucoup, beaucoup de D&D en ligne, mm-hmm. puis souvent, il y a comme un malaise qui existe. Quand que les gens prennent une voix ou quand que les gens...
Ouais.
C'est pas tout le monde qui a justement le feeling de partner qu'eux y ont, puis ça rajoute énormément.
Et l'ordre aussi dans lequel ils sont assis sur les tables a été changé souvent parce qu'ils sont assis, dans le fond, en ligne droite. Okay. Ils sont assis un à côté des autres, donc pas en rond.
Mm-hmm.
Puis au début, ils ont fait plusieurs essais parce que, justement, la manière dont t'es assise avec la personne à côté de toi va influencer la dynamique qu'il y a entre les personnages. Donc, ceux qui sont assis plus proches vont forcément plus interagir ensemble.
Mmh,
exactement, ils ont fait plusieurs essais, ils ont changé un peu les gens de place jusqu'à temps que ça fonctionne bien. Fait qu'il y a aussi cette dimension-là, tu sais, le fait qu'ils se connaissent depuis tellement longtemps fait que naturellement, tu sais, en fait, il y a deux couples qui jouent ensemble dans cette partie-là. Ben, c'est sûr que, tu sais, s'ils sont en couple, ben, forcément, ils vont avoir c'est une plus grande proximité, fait qu'on essaie de les éloigner, est-ce qu'on les met ensemble, fait qu'il y a toutes ces questions-là, puis je pense qu'ils ont trouvé un bon équilibre.
100%.
Puis, en fait, ils jouent avec les mêmes personnages depuis 3 ans.
C'était ça ma question, ouais.
En fait, il y a un personnage qui est différent qui a changé de la première partie au reste. Et là, récemment, là, c'est un spoiler, mais il y a un personnage qui part, je vous dirais pas qui. Il y a un personnage qui part, mais le voice actor reste là. Donc, il joue un nouveau personnage dans une gang déjà super serrée, qui sont habitués à jouer ensemble. Et ben c'est drôle parce qu'il est encore là, puis les gens font référence à son ancien personnage, toujours devant lui, puis ben il faut quand même qu'il réagisse dans son nouveau personnage. Fait qu'il y a toute cette dimension-là.
Ça a été bien fait aussi, parce qu'il s'est arrangé avec le DM pour le faire. Et donc, tous les autres joueurs s'attendaient pas à ce que son personnage y foute le camp. Fait que quand il a foutu le camp, tout le monde était comme... Tu voyais le malaise, en fait, live des gens, étaient comme, ben là, ils s'en vont dessus.
Ouais, ouais, les gens pleuraient, là, c'était super intense.
Ouais, ouais, puis là, Puis, là, après ça, ben, quand ils ont introduit son nouveau personnage dans la même partie, là, tous les autres joueurs capotaient, ils étaient fâchés après lui parce qu'ils pensaient, genre, eux autres, ils avaient comme.
Tu nous as fait vivre ça.
Le roller coaster émotionnel d'avoir un pire, genre, un de leurs.
Mais c'est parfait, ça.
Ah, c'est génial. C'était vraiment bien fait.
Ça va loin. Il y a des affects émotionnels quand même assez intenses. Il y a quelques games où est-ce que genre t'as la boule dans la gorge puis ils sont vraiment bons.
Ah non, moi, je flat out pleure, là. Comme, je suis peut-être vraiment super émotive. En fait, je suis vraiment super émotive. Mais Critical Role me fait pleurer à tous les deux, trois épisodes. Il y a toujours quelque chose qui me fait pleurer. Il y a toujours quelque chose qui me fait rire out loud. Puis je pense que ça passe énormément dans la manière dont le DM, Matthew Mercer, explique tout ce qui se passe. Il improvise énormément, mais il y a toujours des scripts, ce genre de trucs-là. Et la manière dont il décrit ce qui se passe dans la partie est absolument hallucinante, à un tel point que j'ai pas besoin d'avoir vraiment une représentation visuelle. C'est de l'immersion fictionnelle à 100%. Et ben, tu sais, à chaque fois qu'un personnage meurt, je sais qu'ils vont faire un rituel pour le ramener à la vie, mais je pleure quand même parce que c'est ça, parce que c'est triste, parce que tu t'attaches à ces personnages-là, à les voir 4 heures par semaine jouer ensemble. Puis, en fait, tu t'attaches aussi à voir ces acteurs-là pleurer parce que leur personnage est mort aussi, tu sais. Fait qu'il y a toute cette dimension-là de l'immersion fictionnelle vraiment forte.
Pour tous les apprentis DM aussi qui écoutent, Matthew Mercer sur Geek & Sundry a une chaîne de vidéos pour comment devenir un meilleur DM aussi.
Oh, ouais.
Incroyable.
En fait, ce sera plus lui.
Bientôt, effectivement.
En fait, ça va être... c'est ça. Matthew Mercer a fait une série d'à peu près, je dirais, une vingtaine de vidéos, je pense. Sur, ça s'appelle GM Tips, sur justement comment intégrer plusieurs aspects, la création de personnages, la création de batailles, comment équilibrer aussi les parties. Et donc, c'est ça. Matthew Mercer a fait un petit peu le tour de la question. Maintenant, ça va être Satine Phoenix qui va reprendre ça pour les prochaines semaines.
Yes.
Ça va être encore cool, c'est sûr.
Je pense que Matthew Mercer est de plus en plus occupé à cause de Critical Role.
Je pense que oui.
Je pense qu'on va le voir de plus en plus dans les médias partout bientôt.
OK. Vous avez l'air de savoir quelque chose.
Non. Ben, tu sais, déjà, il est en train de faire des Final Fantasy pour le voice acting. Il a été dans Overwatch puis tout. Puis, tu sais, comme ses rôles deviennent de plus en plus importants dans tous les jeux vidéo qui sortent.
Et mais aussi, sort son campaign book.
Il sort son campaign book. Mais là, en plus, dernièrement, je le vois faire des entrevues partout.
Il n'arrête pas. Ouais.
Il n'arrête pas. Fait que j'ai l'impression que c'est un nom qui va être un peu un household name bientôt.
Et donc, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que justement, ils vont sortir le campaign book de Critical Role, donc le monde de Tal Dorei, qui est le monde que Matthew Mercer a créé. Ils vont sortir justement un campaign book. Il avait dit printemps 2017, donc c'est...
Là.
Là. Ouais. Mais on
mais
attend toujours.
Dans le monde du jeu, il faut que tu t'attendes à toujours
non,
des
c'est ça, probablement dans 2 ans. Mais il va justement... Même le succès de Critical Role est tel qu'il va avoir un campaign book qui va sortir. Là, je veux dire, c'est quand même...
C'est pas être Donjons et Dragons, je piggybackerais sur la.
Et là-dessus. Ils le font.
Oh, c'est sûr qu'ils le font.
Ils devraient faire un official campaign guide de genre Wizards of the Coast avec Tal Dorei, d'après moi.
Parce que mais y a pas,
c'est un peu comme ils ont fait avec Faerun, avec Ed Greenwood dans le temps. Ça devrait être ça qu'ils font. Là,
mais il n'y a pas des changements de licence, justement, D&D depuis la 5e édition avec genre le Open License Agreement ou je sais pas trop quoi. Que tu peux...
Je suis pas au courant.
Tu peux tu peux faire ce que tu veux. Ben, vraiment ce que tu veux,
je sais qu'ils ont une grande volonté d'aller plus digital. Là, comme ouais. Ils ont comme sorti un app dernièrement. Là, que
là le D&D Beyond.
Ouais,
ça,
mais...
Puis là, il y a une coupe d'outils.
Ça rentre dans mon champ d'études.
C'est ça,
exactement.
Ça arrive pas mal, en fait, dans un bon segue là, avec Sébastien.
Attends, est-ce que je te le permets? Non, je te le permets pas. OK, bonne émission tout le monde. Félicitations! C'est une blague à toi, Sébastien.
Ah ben, alors pourquoi qu'on m'a invité ici, c'est que je suis en train d'étudier en ce moment à la maîtrise le jeu de rôle sur table. Et mon point de vue là-dessus, c'est que je regarde tout ce qui a trait à la technologie. Fait que j'ai fait un sondage en ligne pour savoir est-ce que vous utilisez... qu'est-ce que vous utilisez, dans le fond? Mon point de départ, c'était que les gens étaient en train de jouer avec des tables virtuelles. Donc, par après, je me suis rendu compte que, eh bien non, les tables virtuelles, c'est vraiment pas quelque chose qui est en train d'être vraiment généralisé. Par contre, les gens sont très ouverts à la technologie. Dans mon échantillonnage, à peu près 300 répondants, d'à peu près un petit peu partout dans le Québec, ça va de la plupart de mes gens sont de 20 à 30 ans. J'ai beaucoup d'expérimenté là-dedans, fait que c'est bon. J'ai pas juste comme des personnes qui ont juste passé là pour répondre à mon sondage. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a au moins un 50% de gens que de base ils se disent moi je suis ouvert à la technologie, sauf que pour toutes sortes de raisons ça me plaît plus ou moins. On parlait tantôt que ça peut être que ça doit être une chimie sociale. Donc, si tout le monde reste chez eux, déjà là, c'est discarté. Ils font comme, moi, je veux pas jouer à ça si je vais pas chez mes chums aller prendre...
S'il y a pas la bière incluse. Ouais,
exactement.
Les offrandes ou DM.
fait que pour eux, là, c'est un non tout de suite. Surtout que ça peut prendre peut-être... Ça fait peut-être des années qu'ils jouent avec la même gang, à la même adresse. Fait qu'ils font comme, moi, c'est vraiment pas un produit que j'ai besoin. Mais il y a des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses. Peut-être que t'en fais partie. Eux, ils vont regarder tout ce qui se fait, puis ils vont peut-être se laisser séduire par telle ou telle chose. Par contre, on assiste aussi à... les téléphones cellulaires sont beaucoup présents, sont toujours dans nos poches, et les livres sont très lourds, il peut en avoir beaucoup. Fait que là, les gens, ce qu'ils me répondent, c'est que moi, je m'en sers juste pour les PDF. J'ai plus besoin de rien traîner sur moi. Tout ce que j'ai, c'est mon téléphone. Puis je navigue dans ces trucs-là. Il y en a d'autres qui utilisent des dice rollers où tout ce qui a accès... c'est pour rouler des dés, là.
Quand t'as 20 dés 6 à rouler... Mm-hmm.
Exactement, ça peut être utile. Mm-hmm. Sauf qu'il y a toujours des détracteurs. Ils trouvent que le fun du jeu de rôle, c'est justement de garrocher des dés puis le son que ça fait. Mm-hmm. Et on peut peut-être la rentendre encore en régie.
Ça me serre.
Donc, pour eux, c'est un non. Genre, moi, je veux pas de dice roller. Même truc, si on est en ligne, puis que là, on a des figurines, on a juste des tokens, c'est plus le fun de jouer avec le matériel. Fait que c'est sûr que quand tu sors d'une tradition régulière, peut-être que la technologie, tu vas l'avoir d'un mauvais œil. On a fait allusion tantôt avec D&D Beyond, qui est une application que Wizard of the Coast vient de lancer, ça fait peut-être 2 semaines de
en
ça.
En phase bêta.
Oui, absolument. Ouais. J'ai regardé vite, c'était quoi la réception des gens, puis il y en a qui disaient comme « It's dead on arrival, faut tout le temps être en ligne. » Moi, si un moment donné, j'ai plus accès à l'Internet, j'ai pas accès à mon application, fait que je veux rien savoir de cette affaire-là. Il y en a d'autres qui disent que c'est trop peu, trop tard, parce que toutes ces applications-là existent déjà dans d'autres... Il y a d'autres sites Internet qui le font depuis longtemps.
Des third parties qui font ça depuis plusieurs années. En fait, même, il y a plusieurs sites qui vendent des modules supplémentaires quand justement Tales of the Yawning Portal est sorti. Il y a un module qui existe pour des logiciels, fait que ça... C'est vrai que c'est trop peu, trop tard.
Exact. Fait que là, j'ai regardé aussi ceux qui étaient plus comme optimistes avec ces trucs-là. Ce qui arrive, c'est que j'ai nommé tantôt les PDF ou peut-être les wikis, ces trucs-là. L'application, c'est un peu ça qu'elle veut faire. Je l'ai regardé vite, là, puis l'interface est quand même de qualité. Le fait aussi que tu peux survoler, par exemple, une règle, on dit comme over, là, avec la clé de la souris. Là. Ben là, tu peux voir peut-être, par exemple, tu regardes un dragon, puis il fait un souffle de feu. Ben si tu cliques, tu mets ta souris par-dessus souffle de feu, ça va popper là, le règlement que ça fait.
Okay.
Ça peut, parce que des rencontres, tu peux avoir plusieurs ennemis en même temps. Fait que là, on se souvient que tu avais ton manuel de monstre avec l'index pris dans une page, le majeur dans l'autre. Puis là, t'étais tout le temps en train de faire un...
En train de switcher, ouais.
Fait que possiblement que cette application-là va te permettre de rassembler tout ça puis te permettre, au final, de sauver du temps. Parce que une des choses que la technologie offre, c'est justement d'économiser ou de réduire la puissance ou le devoir de calcul. Tout prendre en note les choses qu'on a à faire.
Mais pour ma part, ça fait un peu partie du charme.
C'est ça que je m'en allais dire. Il n'y a pas quelque chose de vraiment, tu sais, de le fun quand tu dis quelque chose qui est out of this world, puis le DM est obligé de chercher dans ses papiers.
Ouais, absolument. Il y a du pour et du contre à tout ça.
Oui, bien sûr.
Moi, j'ai beaucoup de matériel chez nous. J'ai appris avec le temps à l'utiliser. Fait que là, je suis en train d'étudier quelque chose que, dans le fond, je devrais plus capitaliser sur ce que j'ai chez nous. Puis là, toute ma collection, je suis en train de la mettre aux poubelles parce que je me rends compte que l'avenir est dans cette petit cellulaire ou dans le laptop que j'ai. C'est clair que aussi, il y a deux façons de le voir. C'est que les systèmes peuvent être quand même assez compliqués. Il y a beaucoup de nouveaux jeux de rôle qui vont faire comme nous autres, ce qu'on veut, c'est plus de la narration de l'histoire. Fait qu'on va faire un jeu qui est moins compliqué, ou qu'il y a juste avec 2d6 dans Dungeon World, c'est ça, avec juste 2d6 tu peux à peu près faire tout l'équivalent de toutes sortes de tables qui seraient remplacées dans Donjon Dragon. Fait que ça, c'est une avenue d'alléger le design ou le rendre plus élégant. Mais d'un autre côté, si on a aussi des applications qui permettent d'avoir un système lourd, beaucoup plus facile d'accès, c'est une autre façon d'envisager le jeu de rôle. Il y a probablement c'est sûrement deux pistes qui se valent l'une et l'autre, ça dépend des choix, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire là-dedans, parce que le thrill de la simulation, il y a le fun. T'sais, d'avoir une différence réelle entre une épée à deux mains, une épée bâtarde, puis une épée longue, dans un autre jeu, pourrait dire, moi je m'en fous tant que tu as quelque chose pour tuer quelqu'un devant toi, c'est assez, puis dans l'autre, il va avoir une méchante différence de poids, de vitesse. Ça vient chercher d'autres types de plaisir.
Puis il y a quelque chose de le fun à maîtriser un système de règles aussi.
Absolument. Oui. Le feeling là d'être le virtuose de tout ça, puis de savoir les trucs par cœur, ça fait des discussions animées là, quel sort tu vas choisir.
Mais ce genre d'application là, ça aide beaucoup au multitasking de DM là, qui est souvent très complexe. On parlait de justement tantôt les doigts là, dans les genre, t'en as trois doigts, t'en as un sur un dragon, l'autre dans une épée bâtarde, puis l'autre tu check une règle,
un doigt dans un dragon.
on garde ça pour la 200e.
C'est le titre de l'émission.
Un doigt dans un dragon. Non, mais ça facilite le multitasking. Mais pour D&D Beyond, pour l'instant, à date de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir pour les deux premières phases de la bêta, c'est satisfaisant, sans plus. Mais j'ai hâte de voir. En fait, je m'attendais pas à voir ça. La troisième phase va intégrer justement l'intégration du homebrew. Je m'attendais pas à voir ça de Wizards of the Coast. Le homebrew, d'ailleurs, je pense qu'on l'a dit une couple de fois, mais on le sent vraiment expliqué, mais le homebrew, c'est des règles maison créées par des maîtres de jeu, des joueurs, tout ça, pour intégrer dans le monde de Donjons & Dragons. Il y en a beaucoup qui se font déjà. Il y a beaucoup de sites comme EN World ou Dungeon Masters Guild qui ont des PDF de règles maison.
Limite Pathfinder, 3.75.
Ouais, mais Pathfinder, c'est que ça, pratiquement.
C'est ça, exactement.
Mais oui, c'est ça, il y a énormément de règles, mais souvent c'est pas testé, c'est du homebrew, fait que
c'est testé ish
et on va mettre l'accent sur le ish. J'ai vu des trucs des fois qui
le danger aussi avec sursimplifier les règles, c'est que les joueurs aient plus l'impression qu'ils sont en train de jouer un rôle qui est vraiment unique. C'est en fait ce qui a détracté beaucoup de gens avec la 4e édition, où est-ce que
absolument
ils ont essayé de vraiment rendre ça un petit peu plus tactical gaming, puis toutes les classes se ressemblaient un peu, où en fait les choix de spécialisation étaient relativement non-existants. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme crié au fait que j'ai plus l'impression de jouer une personne unique dans un univers, j'ai l'impression de jouer un guerrier comme tous les autres guerriers, en fait. Là,
j'ai fait totalement partie de cette vague de joueurs-là où ce que je me retrouvais. C'est peut-être juste une impression, je ne sais pas à quel point est-ce que les gens ont mis le doigt là-dessus, mais ça revient rejoindre ce que vous dites les deux. J'avais l'impression que Donjons & Dragons, après avoir été aussi influent sur la culture du jeu, avait comme renversé de polarité puis commençait à être influencé par le jeu. Puis j'avais vraiment l'impression de jouer à Donjons & Dragons via World of Warcraft. Et puis c'était comme un sentiment de...
C'est à peu près à la même époque. C'est d'ailleurs, on voit vraiment l'influence du... Tu sais, c'est vraiment plus comme petit jeu vidéo casual, ben quick, merci, bonsoir, puis ça finit là.
Puis c'est drôle parce que c'est pas du tout... On l'a souligné quand même à plusieurs reprises dans l'émission, c'est pas du tout la direction à laquelle Donjons & Dragons s'est rendu ou prenait ou est en train de prendre actuellement, elle est beaucoup plus, comme tu disais, Critical Role, c'est des épisodes de 4 heures.
Ouais. Mm-hmm.
Je veux dire, en moyenne, des fois, ça va jusqu'à 6 heures.
C'est ça. Ça prend le long souffle pour une game de Donjons et Dragons. On décrit le manque d'attention, on décrit toutes ces idées-là actuellement par rapport au support technologique et comment c'est en train d'influencer notre rapport à l'activité.
Mais c'est pour ça que Pathfinder a été créé en même temps aussi. Ben Pathfinder, oui. C'est une réaction à l'annonce de la 4e édition. C'est non, merci, bonsoir. Nous autres, on fait 3.5 amélioré.
C'est ça. Fais-moi pas quelque chose de plus facile. Fais-moi pas quelque chose de plus court. Fais-moi pas quelque chose. T'sais, c'est comme, c'est pas ça qu'on va chercher quand on joue à Donjons et Dragons. Mm-hmm. Puis ça, je trouve ça très intéressant parce que la réaction, même si on n'avait pas défini ces aspects-là au jeu initialement, la réaction du public à la V4 a comme cimenté des caractéristiques d'une partie ou d'une joute de Donjons et Dragons parfaite. Tu peux pas faire une game de 1h25.
Mon Dieu, bonne chance.
Ben, ça avait été pensé aussi, la 4e édition, pour être justement encore sur les plateformes virtuelles. Il y avait un projet qui n'a jamais abouti. Il y a eu beaucoup de promesses obtenues là-dessus. Oui. Je pense que ça s'appelait Dungeonscape ou avec tout. Il y avait D&D Insider. Ouais. Tu étais supposé d'avoir justement ça, là, ta figurine là, à l'ordinateur. Tout ce que fait à peu près Roll20 et Fantasy Grounds en ce moment, ça avait été pensé à l'époque de la 4e édition.
Et à ton avis, est-ce que ça serait peut-être plus fonctionnel si on essayait moins de convertir le jeu au grand complet à l'univers virtuel et qu'on utilisait une stratégie qui est peut-être plus réalité augmentée? Ça serait-tu peut-être un compromis plus fonctionnel que de dire, on joue pas toutes sur nos tablettes, mais on a toutes... C'est une façon de... On utilise des codes QR ou des trucs... Ben, le code QR, ça...
Il y a déjà un éclatement de la table de gaming, on le sent. Là. Il y a des gens qui vont toujours jouer entre amis. Il y a quelqu'un qui peut être sur Skype à côté. Ouais. Il y a déjà des initiatives à ce niveau-là pour mettre la réalité virtuelle là-dessus. La technologie est peut-être pas encore là. Mais je pense que ça se ressemble. Aussitôt que tu dis que t'es plus seulement entre amis, t'es dans une autre catégorie à part, puis là, on navigue là-dedans en ce moment. Je pense que Wizard of the Coast réserve une longueur de retard de sécurité. Ils vont regarder ce que Roll20 font, ce que Fantasy Grounds font, puis ils vont plutôt contribuer avec eux plutôt que de maintenant être le premier à l'avant-garde.
Ouais.
Ils font beaucoup maintenant aussi du playtest. On parlait de le homebrew, là, c'est parce que les gens le demandent et ils sont à l'écoute de leurs fans. Donjons & Dragons appartient pas vraiment à quelqu'un, c'est un phénomène qui appartient à tout le monde. Donc, ils essayent de guider ce monstre-là du mieux qu'ils peuvent.
Magnifique conclusion. J'aurais pas pu dire mieux. Merci énormément, Sébastien. On conclut rapidement vos classes. Chris, tu jouerais quoi?
Moi, là?
Là.
Un cleric.
Sébastien?
Un magicien, mais super gentil.
Captain Janeway?
En ce moment, je joue un paladin.
Alexandre?
Ah, wizard, là. Non, un sorcerer.
Oh, ouais. C'est pas n'importe quoi, ça.
Parce que wizard, c'est un peu plus... C'est un érudit, tout ça, mais un sorcerer, là, c'est un...
Inné.
Ah ouais.
C'est un connard de première.
Ta mère a couché avec quelqu'un.
Hein? Que quoi?
Ta mère a couché avec quelqu'un d'important pis t'as des pouvoirs.
Genre. Ma mère a couché avec Jim Dark Magic.
Et Megan?
T'as déjà dit cleric, moi c'est ça que je joue d'habitude, mais je vais dire rogue. Parce que mon dernier cleric, j'allais monter comme un rogue puis ça marchait vraiment pas. Il s'appelait Chris and Joel.
Ah yes! All right!
Ça marchait.
Ça marchait correct, là.
Oh ouais.
Puis il y a personne qui a dit fighter, ça fait que je vais faire le fighter. Il fallait un peu que je le fasse.
Barbarian.
Ouais.
OK. Ça, c'est pas. Ouais, OK. Pourquoi pas?
Merci. Des totems puis des enfants.
Énormément pour l'émission. Vous avez été fantastiques. Merci aussi aux auditeurs. On va aller écouter Dead Alewives et leur skit sur Dungeon & Dragon. On vous souhaite une excellente semaine et popez bien comme du monde, tout le monde.
Galstaff, you have entered the door to the north. You are now by yourself, standing in a dark room. The pungent stench of mildew emanates from the wet dungeon walls.
Where are the Cheetos?
They're right next to you.
I cast a spell.
Where's the Mountain Dew?
In the fridge, duh.
I want to cast a spell.
Can I have a Mountain Dew?
Yes, you can have a Mountain Dew. Just go get it.
I can cast any of these, right? On the list?
Yes, any of the first level ones.
I'm going to get a soda. Anyone want one? Hey, Graham, I'm not in the room, right?
What room?
I want to cast
magic missile.
The room where he's casting all these spells from.
He hasn't cast anything yet.
I am, though, if you'd listen. I'm casting magic missile.
Why are you casting magic missile? There's nothing to attack here.
I'm attacking the darkness.
Fine. You attack the darkness. There's an elf in front of you.
Whoa!
That's me, right? He's wearing a brown tunic, and he has gray hair and blue eyes.
No, I don't. I have gray eyes.
Let me see that sheet.
Well, it says I have blue, but I decided I wanted gray eyes.
Whatever. Okay, you guys can talk to each other now if you want.
Hello. I am Galstaff, Sorcerer of Light.
Then how come you had to cast magic missile?
you guys are being attacked.
Do I see that happening?
No, you're outside by the tavern.
Cool, I get drunk.
There are seven ogres surrounding you.
How could they surround us? I had Mordenkainen's magical watchdog cast.
No, you didn't.
I'm getting drunk. Are there any girls there?
I totally did. You asked me if I wanted any equipment before this adventure, and I said no. But I need material components for all my spells, so I cast Mordenkainen's faithful watchdog.
But you never actually cast it.
Roll the dice to see if I'm getting drunk.
Yeah, you are.
Are there any girls there?
Yeah.
I did, though. I completely said when you asked me.
No, you didn't. You didn't actually say that you were casting the spell. So now there's ogres, okay?
Ogres? Man, I got an ogre slaying knife. It's got a +9 against ogres.
You're not there. You're getting drunk.
Okay, but if there's any girls there, I want to do them.
Galstaff, are you sure you've decided to haggle with the blacksmith?
Yes, and I'm using my ring of charms, which adds a +10 to all convincing rolls.
You don't have to remind me. You seem to have convinced the blacksmith to lower the price on the sword.
Rock and roll! I use the sword!
What do you mean you use it?
I swing it around!